Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Alors que les révisions des lois de bioéthique ont commencé cette semaine à l'Assemblée nationale, l'actualité est brûlante pour nombre de chrétiens qui s'interrogent sur les dérives libérales de ce projet. Un sujet qui divise en partie la société française et pourrait bien entraîner une mobilisation massive de gilets, roses peut-être cette fois. Autre actualité qui n'est pas sans jeter d'huile sur le feu, le prochain débat parlementaire sur l'immigration. Emmanuel Macron, toujours cette semaine, a annoncé sur ce sujet qu'il entendait faire le choix de plus de fermeté ou d'injustice, au dire des uns ou des autres. Mais puisque cette émission est celle de la rentrée, nous reviendrons aussi sur les manifestations ayant eu lieu à Hong Kong pour crier le désir d'indépendance des Hongkongais à l'égard de la Chine. C'est pas l'actualité de l'Église universelle, un peu fatigué ce matin. Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, l'actualité du mois. On retrouve certains de nos chroniqueurs pour cette émission de rentrée. Honneur aux dames, Daniel Cabanis, toujours ancien professeur d'histoire du droit à l'Université Toulousain Capitole et chroniqueuse, mais cette fois politique à Radio Présence. Hein, vous êtes passé de géopolitique à politique, c'est ça ?
Oui, en gardant quand même un peu de géopolitique, une fois sur trois.
Voilà. Tanguy-Marie Pouliquen, vous êtes toujours prêtre religieux de la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Oui, toujours prêtre. Oui.
Toujours prêtre, oui. Et Emmanuel Perrier, toujours prêtre aussi, religieux dominicain, professeur de théologie au Studium des Dominicains à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer donc par cette actualité, en regardant un petit peu dans le rétroviseur, quoique, puisque cela continue. Ces gigantesques manifestations donc à Hong Kong. Cela a commencé dès le printemps dernier, s'est accéléré au mois de juin, une première très grande manifestation en juin dernier, 1 million de personnes dans la rue. Ce qui a déclenché cela, c'est donc un projet sur l'extradition vers la Chine, des personnes se trouvant donc des Hongkongais, personnes qui pourraient être extradées pour être jugées en Chine lorsqu'elles sont, on va dire, accusées d'activités criminelles, et les activités criminelles pouvant avoir une acceptation assez large. Alors ces manifestations donc, ont lieu à de nombreuses reprises. On a vu des images très impressionnantes et on reviendra un petit peu sur la position de l'Église à ce sujet. Daniel Cabanis, que vous ont inspiré ces manifestations? Je regardais en préparant l'émission, Hong Kong c'est 7,6 millions d'habitants et au final la plus grosse manifestation c'était au moins 2 millions, donc il y a eu quand même beaucoup de monde dans la rue.
Ça illustre, je crois, une déception considérable qui frappe les Hongkongais. Certains n'étaient pas si mécontents que cela de rentrer dans le giron chinois lorsque les Anglais sont partis. Ça procédait d'un goût de la décolonisation. Mais en même temps, l'immense majorité de ces mêmes Hongkongais étaient très inquiets d'être soumis un jour ou l'autre, même s'ils avaient des garanties pour le début, au régime politique de la Chine populaire, dont on sait qu'aujourd'hui, elle tente à aggraver la pression sur les habitants, les contrôles liberticides, qu'on pense à la reconnaissance faciale qui se généralise, le contrôle de tout ce qui peut être dit n'importe où, enfin dans les écoles, dans les universités. Il y a maintenant systématiquement des commissaires politiques qui vérifient tout. Alors, bien sûr qu'on ne peut jamais tout vérifier, mais enfin...
Même le permis à points social de citoyenneté.
Voilà, tout à fait. Donc, il y a quand même un risque qui est considérable et pour les habitants de Hong Kong, et en particulier la jeunesse qui s'est construite non seulement un mode de vie de type capitaliste, ça c'est la critique facile qu'on peut leur reprocher, mais un mode de vie dans lequel on peut s'exprimer. Cette volonté de la première ministre de Hong Kong de rendre possible une extradition vers la Chine populaire était vraiment quelque chose d'abominable. Et de surcroît, juridiquement, ça ne tient pas la route. Parce que, ou bien Hong Kong fait partie de la Chine, qui est en fait le cas, mais avec un statut particulier.
Aujourd'hui, c'est un pays, deux gouvernements ou deux systèmes judiciaires. Un pays,
oui,
deux systèmes, c'est l'expression, je crois.
Oui, c'est un pays, deux systèmes, mais ça reste un pays. Or, à l'intérieur d'un pays, il y a quand même une bonne vieille règle de droit qui est vraie partout, c'est la loi du fort. On est poursuivi là où on a commis un délit. Donc ça ne tient pas. L'argument n'a pas été très souvent soulevé parce qu'en fait le problème est plus politique que juridique, il faut bien le dire, mais j'ai quelques réminiscences de mon ancien métier. Mais ça montre bien que le gouvernement chinois est prêt, lorsque ça l'arrange, à balayer toutes les conventions les plus basiques qui ont pu être signées, auxquelles il a d'ailleurs adhéré, notamment en matière judiciaire.
Alors le gouvernement a fait marche arrière puisque ce projet a été suspendu. Il est mort, a dit donc la chef du gouvernement, donc Carrie Lam. J'ai noté aussi que, enfin c'est en partie pour des raisons économiques, peut-être que vous y reviendrez, juste un ou deux mots sur Hong Kong, parce que tout le monde n'est pas familier d'Hong Kong. C'est le troisième centre financier mondial. Le PIB de ce lieu est équivalent à celui de la France, ou presque, mais il y a des inégalités criantes, 20% de la population sous le seuil de pauvreté. Tanguy-Marie Pouliquen.
Alors, moi, je suis allé plusieurs fois à Hong Kong ces dernières années et reste en contact actuel avec des Hongkongais. Évidemment, ils relatent un cri, un grand cri de la jeunesse qui est dite déprimée, qui est dite triste, parce que sans avenir au regard des valeurs qu'elle porte elle-même, c'est-à-dire des valeurs de liberté, de créativité.
Parce qu'il y a eu aussi une vraie différence de génération. Ce sont surtout les jeunes qui se sont mobilisés parfois contre une autre génération.
Oui, actuellement, c'est surtout les jeunes hein, dans la suite du mouvement des parapluies hein, d'il y a quelques années. C'est-à-dire une jeunesse qui refuse cette mainmise. Par exemple, un exemple de mainmise pratique au plan culturel, la Chine a réussi à interdire les cours d'esprit critique. C'est-à-dire que tout esprit critique dans le cadre de l'éducation, critique d'un texte, critique littéraire, tout esprit herméneutique qui intégrerait une forme de subjectivité dans la critique est interdit. Donc on voit bien que derrière, c'est la valeur centrale de la culture chinoise qui veut coupler deux éléments, l'harmonie et l'ordre, à travers une stabilité, donc une convergence, pour des raisons aussi de gestion massive de population. Donc aujourd'hui, face à cette reprise en main, liberticide, ben la jeunesse crie haro et veut vraiment aller de l'avant. Et on comprend que la Chine y va à tâtons, y va doucement. Elle aurait pu y aller beaucoup plus vite. Elle veut d'abord respecter une situation de droit hein, jusqu'en 1947. Donc il y a quand même des
2047.
Ouais.
Jusqu'en 2047.
2047. Il y a
jusqu'en 2047. C'est donc ce système un pays deux systèmes.
Voilà, ouais. Avec donc j'ai un accord qui a une valeur de droit international, une sorte de entre les Anglais et les Chinois. Et donc bon, il y a aussi son autorité,
sa réputation. Et une histoire de gros sous. Donc,
alors, l'histoire de gros sous, nous y voilà. L'histoire de gros sous, c'est que 65% des entreprises chinoises qui travaillent à l'étranger sont inscrites à Hong Kong. Donc, toucher à Hong Kong, c'est toucher à business, hein, vraiment à un très gros business. Et puis, derrière Hong Kong, il faut voir la sous-région. Hein, il faut voir la sous-région. La sous-région, c'est 65 millions d'habitants. Ouais, c'est Canton, c'est Macao, c'est Shanghai, et puis bien d'autres villes. Et donc, c'est toute une économie régionale qui a été symbolisée par ce fameux pont de 55 km qui relie dorénavant Hong Kong à Macao. Donc, il y a un enjeu économique majeur et puis une génération qui dit... on veut un avenir libre. Voilà.
Dans le journal La Croix, il y avait des témoignages de jeunes comme ça. J'ai relevé juste une phrase. « Ce que mes parents veulent, c'est la stabilité, le bien-être économique. Mais moi, je veux plus que cela. Je veux me battre pour l'obtenir. » Et en l'occurrence, donc, la liberté. Il y a certains jeunes qui, du coup, se sont fait mettre à la porte de chez leurs parents. Emmanuel Perrier, qu'est-ce que ça vous a inspiré comme réflexion? Entre autres, on pourrait parler aussi du positionnement de l'Église catholique à l'égard de ces manifestations.
Alors, vous pourrez en parler, parce que moi, je n'ai pas d'éléments dessus. Je veux juste rajouter, dans le prolongement...
L'Église catholique soutient ces mouvements, c'est ce que j'ai lu. Il y a même un chant qui est l'hymne de la contestation aujourd'hui, qui est « Chante Alléluia au Seigneur ». Non, mais ce n'est pas des blagues.
Non, mais tout à fait. Mais Deux éléments qui me semblent à rajouter, qui est de ce que j'ai de mes contacts à Hong Kong, c'est que il y a d'une part la croissance de une des raisons pour laquelle les jeunes ne trouvent pas de place et n'ont pas la société n'est pas favorable pour eux, c'est que la croissance économique de Hong Kong a fait que notamment par exemple les prix de l'immobilier sont devenus exorbitant. Donc, ils n'ont pas de place, ils ne peuvent pas s'installer, ils ne peuvent pas... voilà. Donc, ça bouche l'avenir.
C'est deux fois plus cher qu'à Paris.
Oui, et donc, quand vous n'avez pas d'avenir, il y a un problème. Bon. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a un effet aussi de... les Américains sont ravis de mettre de l'huile sur le feu puisque c'est une épine dans le pied de la Chine. Or, en ce moment, dans le cadre de la guerre commerciale avec la Chine, tout ce qui déstabilise l'autre est bon à prendre. Mais en même temps, je pense que j'ai l'impression que c'est une situation qui ne peut pas de toute façon être modifiée. La Chine n'a aucun intérêt à perdre Hong Kong comme place autonome, indépendante, puisque c'est elle qui prétend être la première place financière du monde asiatique. Donc elle va pas perdre, risquer de tuer la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire le fait d'avoir à sa botte, ou en tout cas à sa main, le premier centre financier de l'économie asiatique. Et à l'inverse, les États-Unis ne peuvent pas non plus aller trop loin. Il est impossible que le statut juridique actuel de Hong Kong ne peut pas être modifié. Qui le modifierait? Pour quelle autonomie? Hein, personne ne laissera Hong Kong devenir plus indépendant. En revanche, ce qui est possible, c'est qu'il y ait des aménagements internes, c'est-à-dire que le système laissé par les Anglais était un système héritier d'un gouverneur qui gère, c'est un gouvernement technocratique. Et il est fort possible qu'il y ait besoin d'accorder quand même une certaine liberté politique, ou en tout cas une représentation plus politique.
On peut dire du coup quelques-unes des revendications, il y en a cinq grandes de ces manifestants, retirer complètement donc ce projet de loi sur l'extradition, la mise en place du suffrage universel dans cette démocratie, retirer les termes émeute et émeutier, manière dont ils sont qualifiés les manifestants, création d'enquête contre les violences policières et démission donc de la chef du gouvernement Carrie Lam. Tanguy-Marie Pouliquen, est-ce que vous pouvez juste réagir sur la position de l'Église et ce fameux chant, la chante Alléluia au Seigneur, l'hymne de la contestation? D'aucuns y voient du coup un cri d'espérance chrétienne. Faut-il aller jusque-là?
Alors, les catholiques à Hong Kong, 300 000 habitants, sont catholiques sur une population de 7 millions, donc c'est une petite minorité, même si la majorité, elle est au moins d'aspiration chrétienne.
Alors comment on en arrive à ce chant du coup?
La posture, moi je connais bien les évêques, parce que je leur ai prêché leur retraite il y a quelques années avec le cardinal, les évêques de Hong Kong et les prêtres, j'ai prêché une retraite, donc j'ai pu, pour eux, j'ai pu rentrer en discussion avec eux, et puis, ils m'ont pas dit grand-chose, hein, parce qu'ils sont toujours très, très, très prudents. Mais je perçois, la posture, c'est une posture classique de la part des évêques, visiblement en dialogue serré aussi avec Rome, c'est de travailler sur l'angle, à mon avis, qui est vraiment décisif pour la culture chinoise, et ce que peut apporter de positif le christianisme, c'est la question de la conscience. Donc, les évêques ont dit, aux jeunes, aux manifestants, écoutez votre conscience. Écoutez la profondeur de votre conscience pour que de tout cela sorte un bien. Posture ou affirmation peut-être facile à dire, mais posture décisive pour la culture chinoise où la notion de conscience individuelle et encore moins de conscience politique est éveillée. Donc il y a une posture à long terme d'engager, on pourrait dire, une nouvelle culture ou une culture alternative. Alors la question, moi j'étais en Chine cet été et j'ai fait mes petits sondages auprès des prêtres, etc. D'abord, presque personne ne savait ce qui se passait à Hong Kong.
Parce qu'il faut dire qu'il y a une désinformation considérable
incroyable.
En Chine.
Et puis sinon, les gens qui étaient à Hong Kong, ils étaient considérés comme des rebelles, des gens qui n'obéissent pas, qui veulent le désordre, etc. Donc la politique chinoise de désinformation, entre guillemets, a très bien marché. Et deuxièmement, il y a vraiment dans la culture chinoise très profondément ancrée une volonté d'ordre, de stabilité. Et puis donc la conscience politique, les libertés publiques à travers une anthropologie qui éveille la conscience personnelle, eh ben c'est très fragile encore aujourd'hui.
Allez, on va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler donc de ces prochaines discussions sur l'immigration et entre autres donc des propos d'Emmanuel Macron en ce début de semaine à l'adresse en partie de sa majorité.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient autour du plateau, Daniel Cabanis, ancien professeur d'histoire du droit à l'université Toulousain Capitole, Tanguy-Marie Pouliquen, entre autres professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse et prêtre et religieux, et Emmanuel Perrier, lui-même prêtre et religieux et professeur de théologie au Studium des Dominicains à Toulouse. On va donc parler, si vous le voulez bien, du prochain débat parlementaire sur l'immigration, qui normalement doit commencer le 30 septembre, du 30 septembre au 2 octobre, et j'ai vu, ça me paraît bien court pour une discussion parlementaire sur un sujet comme ça. Toujours est-il que lundi dernier, donc le président de la République s'est invité à la rentrée parlementaire de sa majorité, et il y a eu donc des mots sur l'immigration qu'on ne lui avait jamais, semble-t-il, entendu dire. J'ai relevé quelques expressions. Nous sommes face à un phénomène nouveau. Les flux d'entrée, n'ont jamais été aussi bas en Europe et les demandes d'asile jamais aussi hautes en France. Je crois à notre droit d'asile, mais il est détourné de sa finalité par des réseaux, des gens qui manipulent. Un peu plus loin, ou à un autre moment, en prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste. Et puis à un autre moment, la gauche n'a pas voulu regarder le problème pendant des décennies. Les classes populaires ont donc migré vers l'extrême droite. Et avec cette apostrophe à l'égard de sa majorité, la question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois. Allez, on recommence avec vous, Daniel Cabanis. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça vous semble être un débat nécessaire? Quelle a été votre réaction à ces propos d'Emmanuel Macron?
Au premier degré, on est étonné parce qu'on n'avait pas l'habitude de l'entendre s'exprimer exactement comme ça. Et puis, quand on y réfléchit, on est partagé, enfin, j'étais moi partagée entre deux types de réactions. Première réaction, enfin, c'est pas possible, il a cédé à la pression des affreux. Et puis, en essayant de ne pas se laisser embarquer par, par les sentiments, peut-être qu'il est nécessaire d'essayer de poser le problème de l'immigration, des demandeurs d'asile, de l'accueil qu'on peut leur réserver de manière posée en jouant carte sur table. Parce qu'il y a quand même un élément qu'on ne peut pas ignorer, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'être extrêmement ouvert et extrêmement généreux que dans sa vie ordinaire, on n'est en fait pas très concerné, sauf si on s'implique à titre personnel, mais que si on veut rien faire, on peut ne rien voir ou presque rien. Alors que une partie de la population, que ça lui chante ou que ça ne lui chante pas, est impactée en permanence.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? La gauche n'a pas voulu regarder ce problème. Pendant des décennies, les classes populaires ont donc migré vers l'extrême droite. Et disons qu'en fait, c'est une posture un peu bourgeoise, alors qu'elle soit de gauche ou de droite, on imagine que c'est un peu pareil, de ne pas vouloir regarder ce problème en face. Est-ce que ça vous semble juste ?
Bah, je crois que c'est partiellement vrai. Alors, dit comme ça, c'est extrêmement critique. Or, ça n'est pas si simple parce que souvent, qu'on y appartienne ou qu'on n'y appartienne pas, peu importe, mais la gauche a eu le courage de soulever un certain nombre de lapins qui méritaient d'être sortis de leur terrier pour qu'on aborde les questions. Et il y a quand même des formes de solidarité ou de générosité dont la droite n'a pas toujours été le porteur. Donc, c'est un peu facile de dire « Ah, ils ont eu beau faire, ils ont été naïfs, etc. » Qu'après, la gestion n'ait pas été très rationnelle, n'ait pas été très pertinente, c'est sûrement vrai. Mais je crois que tous les gouvernements emportent une part de responsabilité parce que jamais personne n'a véritablement voulu parler vrai.
Alors, je voudrais juste ajouter un élément, c'est que c'est pas la première fois que le gouvernement Macron se penche sur la question de l'immigration. Il y avait déjà eu donc un projet de loi en 2018, un certain nombre de points qu'on pourrait soulever. À l'époque, catholiques et protestants avaient dénoncé ces nouvelles mesures. Je cite Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, « L'économie générale du projet constitue un renoncement sans précédent aux valeurs et aux traditions humanistes de la République. » Alors, il faudrait détailler l'ancien projet, parce qu'il y avait des choses aussi qui, semble-t-il, étaient saluées par les associations. Mais ce n'est pas non plus la première fois qu'on en parle dans cette majorité. Emmanuel Perrier, quelle a été votre réaction ? Quel est votre sentiment ?
Si je devais dire « bof », je veux dire... C'est d'où ça vient ? Voilà, ma question, c'est d'où ça vient, cette parole ? Ça sort de quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, tout d'un coup, le pousse à dire ça ? C'est une inspiration, c'est l'Esprit-Saint lui a parlé.
L'augmentation du nombre de demandes d'asile en France, elles n'ont jamais été aussi importantes, alors qu'elles sont plus faibles en ce moment en Europe. 122 743 en 2018.
Oui, mais ça, on sait très bien depuis des années, un discours politique responsable consiste à dire, quand on dévoie les institutions juridiques qui sont faites pour l'asile en le transformant en un moyen d'intégrer des gens qui ne sont pas des demandeurs d'asile, qui ne sont pas vraiment des demandeurs d'asile, qui sont des migrants, mais des migrants économiques, voilà, on a détourné le droit de sa finalité. C'est pas une nouveauté.
Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée ? Parce que ça peut paraître clair pour vous, mais ça n'est pas
un
forcément
demandeur
pour les
d'asile, auditeurs. C'est un statut juridique tout à fait particulier, régi par des conventions internationales, dans lequel un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui, dans son pays d'origine, est obligé de fuir parce qu'il est dans une situation où s'il restait, il serait soit sa sécurité serait en jeu, soit il y aurait une injustice serait commise à son égard, etc. Donc il est obligé de quitter son pays et donc il demande asile dans le premier pays dans lequel il arrive. Bien. Au moment où il y a eu ces grandes vagues migratoires, on a décidé de traiter comme sous le mode de l'asile des migrations qui en réalité n'étaient pas de ce type. Bien. Et aujourd'hui, on se dit, ah bah oui, mais là, il y a des excès, ça pose des problèmes. Bah oui, mais quand on dévoie le droit...
C'est-à-dire qu'on a commencé à élargir le droit d'asile, en fait, à d'autres motifs que des motifs politiques, c'est ça ?
Bah, c'est-à-dire qu'on l'a utilisé pour... Oui. On a utilisé ce... On a, si vous voulez, le problème, c'est que avec le phénomène migratoire à partir des années 2015, depuis 2010 au moins, mais surtout 2015... L'afflux a été tel que tous les mots, toutes les cases juridiques dans lesquelles rentraient habituellement les personnes qui demandaient à entrer dans un pays, ont été complètement brouillées. Hein, c'était, l'afflux a été tel que tout a été brouillé. Bien.
Et 1,2 million de personnes, selon le HCR.
Oui, mais on ne compte pas les clandestins, etc. Mais et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des droits. Je voyais le rapport de la commission du droit d'asile, l'admission du droit d'asile, qui se trouve face à des cas où ils ont tout lâché, ils ont tout laissé, tous les critères habituels ont été laissés à l'abandon. Bon, donc comment est-ce que vous faites dans ces cas-là ? À ce moment-là, ça veut dire que l'État laisse faire, les systèmes juridiques sont dévoyés, ils servent à autre chose que ce à quoi ils servent, et il y a un moment où l'État se dit, mais en fait, en faisant ça, j'ai perdu tout moyen d'action. J'ai perdu tout moyen d'action, puisque le principe même du droit, c'est d'arriver à ce que l'État arrive à maîtriser à peu près ce qui se passe dans son pays. Quand tout est dévoyé, j'ai plus de moyens d'action. Est-ce que c'est ça qui pousse Emmanuel Macron à réagir, à se poser des questions ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une pure... Parce que si c'était ça, il aurait fallu le dire, qu'il y avait un problème aujourd'hui. Dire d'où vient le problème ? Ou à quoi répond-il en faisant ça ? Il y a eu une tentative pour transférer... aujourd'hui, par exemple, il est plus facile d'entrer en France et d'obtenir un statut en France par le biais d'une entrée irrégulière... qu'en faisant une demande par un consulat. Par un consulat, vous n'avez quasiment aucune chance de l'avoir. En revanche, c'est beaucoup plus facile de rentrer de manière irrégulière. Donc, tout ce qui est de la lisibilité du droit a été perdu. Et ça veut dire que l'État est devenu impuissant.
Tanguy Marie Poulikin.
Je pense qu'il y a de ça.
Alors, le symptôme qui est mis en évidence là-dessus, c'est l'AME, ouais, cette aide médicale aux immigrés, est-ce qu'il faut continuer à donner un statut juridique, à donner de l'argent et de couvrir socialement et la santé à 100% de ces gens? C'est des questions pratiques. Bon, il y a eu des prises de position ces jours-ci, notamment Mme Pécresse, présidente de la région d'Île-de-France, qui s'interrogeait sur ce décalage profond entre le droit... Il y a un droit d'accueil, la France est une terre d'accueil, et l'effectivité, la possibilité d'accueillir. Voilà. Et je vais vous donner deux, trois chiffres. Aujourd'hui, 40% des demandeurs d'asile sont à la rue. Voilà, 40% des demandeurs d'asile
sont... C'est-à-dire, vous comptez les déboutés dedans ou les demandeurs d'asile,
oui,
juste.
Alors pour les déboutés, il y a 6 sur 10 qui sont déboutés. Il n'y en a que 2 sur 10 qui sont expulsés. Donc il y en a 4 sur 10 qui galèrent. Et qui, voilà. Et donc, voilà. Donc en Île-de-France, par exemple, si on prend l'hébergement d'urgence coûte 1 milliard d'euros par an, 103 000 nuitées par jour contre 60 000 il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'on a doublé. On double. Donc il y a une pression...
On dit que l'AME aussi coûte 1 milliard aujourd'hui à la France.
Oui, alors l'AME coûte 930 millions, ce qui correspond à 0,5% des dépenses de santé, donc ce n'est pas grand-chose. Alors,
ouais.
Maintenant, essayons, au-delà des chiffres, de se poser la question un petit peu d'un point de vue éthique. Voilà. Alors, éliminer l'AME ou la restreindre. Deux implications. D'abord, est-ce qu'il existe des gens moins dignes d'être soignés ? Donc c'est la question fondamentale. Est-ce que parce que je n'ai pas de droit particulier, je suis moins digne ? Donc en partant de la dignité, il y a une égalité.
Même si aujourd'hui l'AME répond à différents types de situations. J'ai vu qu'il y avait une AME de droit commun, une AME pour les soins urgents et AME humanitaire. C'est-à-dire on répond à des problématiques différentes aussi.
Oui, mais c'est celle de droit commun qui est la plus usitée et qui engage les finances de l'État. Après, il y a une question aussi très pratique, économique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est tenté de diminuer le panier. En gros, de dire, on réserve les soins uniquement aux maladies lourdes. Du point de vue d'une politique de santé publique, le fait d'attendre que les gens soient très malades, finalement, ça coûtera beaucoup plus cher de les accueillir en urgence. Et comme les urgences sont déjà surbookées, etc., c'est le cercle vicieux. D'un point de vue politique de santé publique, on doit le plus tôt possible les soigner, mais certains perçoivent ce traitement comme un traitement de faveur, par exemple l'accès de tous ces clandestins qui ont les frais de transport en Île-de-France, moitié prix.
Alors juste, on entend sur le constat, après vous n'êtes pas des politiques, mais est-ce que l'une ou l'autre chose que vous avez entendue sur ce sujet, alors vous me direz comme le débat parlementaire n'a pas eu lieu, c'est peut-être un peu court, mais voilà, fruit de votre expérience ou de vos lectures, quelles seraient pour vous des mesures intelligentes dans ces cas-là, Daniel Cabanis? Bien malin celui qui le dira
si on le savait, parce que le problème serait résolu, donc il faut la jouer extrêmement modeste. Peut-être qu'une première démarche qui est dans l'ordre du réalisme serait que l'on arrive à avoir des chiffres à peu près exacts. Or, aujourd'hui, les polémiques sont très souvent enflées pour de mauvaises raisons. Politicienne, mais qui
c'est surtout sur l'immigration irrégulière, en fait, qu'on n'arrive pas à avoir de chiffres. Parce que les demandeurs d'asile, on les connaît.
On ne saura jamais exactement. Mais enfin, il y a des chiffres qui circulent dont il est impossible qu'ils soient vrais. Donc, on pourrait peut-être essayer de donner des éléments d'information qui soient plus précis pour faire taire un certain nombre de fantasmes qui sont issus de la xénophobie au premier degré, la pire. Et à ce moment-là...
On dit que c'est 250 000 irréguliers par an. Non, il me semble que c'est un chiffre que vous aviez cité.
C'est un chiffre qui a été évoqué. Il est assez haut quand même. Hein. C'est peut-être un peu moins. Mais enfin, admettons 250 000. Mais au moins qu'on ait des éléments un peu plus précis. Or, on a des moyens de recouper pas mal d'informations. Et ça évite, à mon sens, les mauvaises polémiques.
Alors, des chiffres, est-ce que, je ne sais pas, d'autres ont des suggestions? Allez, dans le même ordre, Emmanuel Perrier.
Moi... Il me semble que le dévoiement vient de la confusion entre la justice et une pseudo-charité, c'est-à-dire en fait une parodie de la charité chrétienne qui est, on va dire, qu'on va appeler la compassion pour faire bien, parce qu'elle n'est pas, nécessairement mal intentionnée. Mais un pays ne peut pas vivre sans justice. Et pour qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un droit, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des lois qui disent ce qui est juste. Lorsque le droit est renversé, devient flou, devient incapable de discriminer entre ce qui est fait, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas l'être, lorsqu'il est, autrement dit, perverti, eh bien, à ce moment-là, on voit apparaître à tous les niveaux de l'injustice. De l'injustice, comme le rappelait le frère Tanguy Marie, pour des gens qui ont été embarqués par des réseaux mafieux de traite négrière, il faut dire ce qui est, on a rétabli la traite négrière aujourd'hui, de traite négrière qui ont été amenés, qui ont payé très cher, qui arrivent ici en pensant qu'ils vont trouver un emploi, etc., qui se retrouvent à la rue, qui n'ont aucun moyen, aucun contact, aucun... Voilà. Donc... Des drames humains phénoménaux.
Et on en croise dans nos villes. Hein,
ces injustices-là, elles sont le fruit de l'absence de volonté de dire ce qui est droit. Qu'est-ce que l'on doit faire? Et pour ça, il faut dire qu'il faut accepter qu'il y ait des choses qui vont être permises et d'autres non. Il y a des choses qu'on va choisir et d'autres qu'on va refuser. Et le fait d'avoir tout mélangé, rendu tout confus, par une espèce de compassion pleine de sucre, hein, pleine de sucre, à bon compte, parce que ça faisait chaud au cœur de se dire on va ouvrir tout, on va être tout est possible, etc. Et on
ça
se
fait,
retrouve
ça fait chaud au cœur, mais ça fait aussi de la main d'œuvre pour un certain nombre de secteurs économiques français aussi.
Avec tout le cynisme qui va derrière,
Le bâtiment, l'hôtellerie,
voilà.
etc.
Et donc,
etc.
Et du travail au blanc. Toutes ces choses là, eh bien, on se rend compte que le droit lorsqu'il est mis au service de la justice, c'est-à-dire on respecte chacun pour ce qu'il est et les situations, et on essaye de lui trouver une place dans la société, eh bien, le droit oblige à clarifier les situations, et à dire non, quelquefois, à dire oui aussi, et à ce moment-là, on s'abaisse le niveau de l'injustice. La compassion ne remplace pas la justice.
Tanguy-Marie Pouliquen, mais rapidement, pour qu'on ait temps de parler de bioéthique. Deux minutes maximum.
Par rapport aux questions pratiques, hein, on voit que cette transgression de la justice qui vient d'être évoquée pourrait être... reprise en main dans une perspective de justesse. Par exemple, les mariages blancs, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y aurait un contrôle beaucoup plus fort, positif, par rapport aux mariages blancs, simplement en vérifiant que les époux parlent la même langue. Voilà. Et on s'aperçoit qu'il y a des époux qui ne parlent pas la même langue. Donc, une invitation à revisiter la question des mariages. La question du regroupement familial, qui est le premier lieu de l'immigration en France, hein, 89 185 aujourd'hui. La condition financière pour permettre le regroupement familial, c'est 1,1 du SMIG. C'est pas beaucoup pour faire venir toute une famille de l'étranger qui aurait des droits uniquement parce qu'elle viendrait au nom du regroupement familial. Il y a aussi maintenant la question des visas touristiques. Vous savez, les gens qui viennent de Géorgie ou d'Albanie, etc., ils viennent de pas très loin, ils ont un visa touristique et en fait, ils restent. Donc comment obliger les visas de transit, d'obliger de visas de transit. Donc il y a une politique de contrôle qui est possible. Mais plus largement, la question, c'est une question systémique. Pourquoi les gens viennent ? Parce qu'il n'y a pas assez de richesse chez eux. Donc certains, à mon avis, ils ont raison sur le fond, vraiment, qu'il y a un vrai plan Marshall pour l'Afrique. Un vrai plan Marshall pour les pays en voie de développement. Et tout le monde sera gagnant dans cette situation.
On en reparlera, puisque donc la discussion parlementaire va être... Le débat parlementaire va être lancé, la même chose, débat et discussion, va être lancé prochainement sur ce sujet dès la semaine prochaine. On fait une deuxième pause et puis on va parler bioéthique, autre discussion parlementaire en cours. Décidément, les sujets chauds se multiplient en ce moment à l'Assemblée, donc les révisions des lois de bioéthique.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel donc le thème de l'émission de ce matin, émission d'actualité autour du plateau. Daniel Cabanis, entre autres donc chroniqueuse politique et géopolitique à cette même antenne. Tanguy-Marie Pouliquen, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Et Emmanuel Perrier, professeur de théologie au Studium des Dominicains dans cette même ville, mais pas à l'Institut catholique de Toulouse. Dernier sujet, donc les révisions des lois de bioéthique. On aura l'occasion certainement d'en reparler, mais là ça devient plus que d'actualité puisque les discussions parlementaires ont commencé cette semaine, le 24 septembre. beaucoup de choses dans ces projets de loi. Ce dont tout le monde parle, c'est donc de la possibilité pour les femmes d'avoir recours à la PMA, procréation médicalement assistée, donc pour les femmes seules ou pour les couples de femmes. Mais il y a bien d'autres sujets, entre autres une extension de la recherche sur l'embryon. Je détaille un tout petit peu. Aujourd'hui, cela fait l'objet de demandes d'autorisation et cela pourrait demain se faire par simple déclaration. Il n'y a plus besoin de finalité de recherche ou de faire la preuve de la nécessité de ces recherches. L'anonymat du don de gamètes aussi pourrait être levé en France. Voilà, demande aussi des personnes qui ont fait l'objet de ces dons. Bref, beaucoup de sujets. Les évêques ont essayé de se faire entendre, mais disent eux-mêmes qu'ils ont eu du mal. Un dialogue un peu de sourd. Et donc l'annonce de prochaines manifestations, puisqu'il y a une grande manifestation qui est lancée pour le 6 octobre prochain. On en a déjà parlé souvent à cette antenne. Que retenez-vous, Emmanuel Perrier? On s'est dit qu'on essaierait de pas faire un débat pro ou anti-manif. Sur le fond, qu'est-ce que vous voudriez souligner?
Première chose, que reste-t-il du grand débat, du fameux grand débat? Parce qu'on oublie vite hein, que soi-disant il y a eu un grand débat national sur ces questions.
Il n'était pas sur les questions. Ah oui, vous parlez des états généraux.
Des états généraux. États généraux de la bioéthique. Bien. Il y a eu un grand débat. Qu'en reste-t-il? Rien. Ça n'a servi à rien. C'était simplement pour faire croire qu'on écouterait. Bien. Il n'y a eu aucune prise en compte. Hein. Deuxièmement, la commission parlementaire, on ne peut pas dire qu'elle a été équilibrée. Hein. Les auditions donnent une assez bonne idée du fait que tout est déjà bouclé. C'est pas un débat. Le but, c'est de faire passer quelque chose.
On a entendu quand même Mgr Dornelas se féliciter de la qualité des discussions qu'il avait eues avec les...
Tant mieux.
Voilà, qui est le représentant des évêques sur ces questions.
Tant mieux. Il n'allait pas dire que c'était...
Non, mais il aurait pu ne pas le dire.
Il aurait pu ne pas le dire. Alors, voilà. Moi, ce que je vois, c'est d'autres personnes qui ont été auditionnées. On ne peut pas dire que le respect des opinions était très haut du côté des auditionneurs. Hein. Donc, on est très loin d'une réflexion morale commune. On a des objectifs, on veut les faire passer. Sous-entendu, ce qu'on répète toujours, c'est une promesse du président Macron, c'est, etc. Ben, très bien. Donc, il suffit de promettre, et à ce moment-là, le débat moral n'existe pas. Là, je me souviens encore des grands débats des années 80-90, le début des comités d'éthique, lorsqu'il y a eu ces premières lois. 94. Elles ont été très disputées, et il y a eu beaucoup d'opposition, etc. Mais au moins, il y avait une qualité de réflexion. Aujourd'hui, non. C'est le marché d'abord, la marchandisation de tout passera. Voilà. Et donc, ce qui me frappe, c'est l'effondrement moral de notre système politique. Effondrement moral qui, pour moi, est l'annonce de son effondrement. C'est-à-dire que, une politique qui ne tient plus par les vertus et par la force spirituelle et la confiance dans la raison pour chercher ensemble le bien, est une société qui va disparaître. C'est une société qui se vide d'elle-même.
Daniel Cabanis, quel est votre sentiment? Certains parlent de grande rupture anthropologique à l'occasion de ces révisions des lois de bioéthique, et pas que des chrétiens. Hein. On pense entre autres à Jean-François Mattei, donc il y a eu cet avis de l'Académie de médecine. Jacques Testard aussi, alors je cite ceux qui sont critiques, on pourrait en citer d'autres en effet. Bref, rupture anthropologique ou pas, on va dire libéralisme marchand, y compris pour les humains ou pas.
Alors, je serais peut-être un petit peu plus réservé sur le terme de marchand, parce qu'il ne s'agit pas seulement de cela, mais il me semble qu'on est dans un débat entre tout ce que l'homme peut techniquement faire ou pourrait techniquement faire, il a le droit de le faire. Il n'y a donc pas de limite. On est dans la ligne directe du meilleur des mondes ou de 1984. Alors avec des technologies qui n'étaient pas encore imaginées, mais enfin on est dans cette même ligne là. Une partie non négligeable de la société, je crois, veut que certaines lignes bougent, mais est-ce que ça veut dire que parce qu'une majorité veut quelque chose, il faut automatiquement dire oui ? On a à l'inverse des débats qui, s'ils étaient posés aujourd'hui, aboutiraient à un résultat qui ne nous plairait pas. Hein, je pense à la restauration de la peine de mort. Hein, un sondage pourrait aboutir à sa restauration. Donc c'est plus compliqué que cela. L'Église catholique, au nom de laquelle évidemment je ne parle pas, a des positions très claires. La Fédération des Églises protestantes est peut-être un peu moins...
Réticence à l'extension de la PMA.
Voilà, elle est
opposition à la GPA.
Un peu moins rigoureuse.
Elle est favorable ou pas favorable ?
Il nous paraît en effet dangereux d'encourager la fabrication d'un enfant, la demande et les situations qui privent volontairement un enfant de son père. Voilà,
elle est dans la ligne de Sylvie Agacinski en disant qu'on est en train de fabriquer du contre-nature sous prétexte de naturel. Alors, il me semble, je dis ça avec vraiment beaucoup de prudence parce que je n'ai pas parlé en direct avec ceux qui se sont exprimés. Il me semble que ce qu'ils veulent dire, c'est que, en tout cas, on ne peut pas l'encourager, mais en même temps, que l'interdire totalement et condamner ceux qui l'ont fait, et notamment les enfants qui sont le résultat de cette action, qui eux n'y peuvent strictement rien, n'est pas une très bonne solution. Donc,
Daniel, personne n'a jamais songé à condamner les enfants qui se retrouvent dans ces situations.
J'entends bien, mais non. Mais
c'est le problème, c'est de ne pas créer ces situations.
Il ne s'agit pas. Non, personne ne dit qu'on veut les condamner. Mais l'opprobre jeté sur la façon dont ils sont nés, on peut quand même imaginer que quand ils auront 14-15 ans et qu'ils commenceront à comprendre un petit peu les choses, ça risque de leur poser un problème extrêmement douloureux. Donc il faut, il me semble qu'on doit tenir compte aussi de leur situation. D'où la difficulté d'avoir...
Il y a une bascule pour vous ? C'est-à-dire, il y a une grande rupture anthropologique, comme les évêques le disent ou...
Ah, oui, je crois que là, il y a vraiment un changement qui, pour ma part, me fait essentiellement peur.
Alors, j'aimerais citer Jean-Pierre Denis, c'est pas pour jeter d'huile sur le feu, mais c'est aussi pour essayer de faire la place, à tout le monde. Directeur de la rédaction du journal La Vie, qui, dans son éditorial la semaine dernière, numéro du 19 au 25 septembre, a eu cette phrase: les aspirations de lesbiennes et de femmes seules avec enfants ne vont ni changer la société, ni provoquer je ne sais quel malheur automatique. Disant qu'il fallait d'abord se réjouir, de toute façon, de la naissance de ses enfants. Et même si dans une autre partie de l'éditorial, il ajoutait: on est sidéré d'entendre le député Jean-Louis Touraine déclarer que le droit de l'enfant à avoir un père n'existe pas. Donc une ligne de La Vie différente d'autres échos. Tanguy Marie Pouliquen, sur le fond.
Sur le fond, rupture anthropologique, rupture civilisationnelle, rupture des fondements du droit, la parenté sociale prend la première place par rapport à cette filiation biologique qui dit depuis toujours la même chose. Je viens d'un papa et je viens d'une maman, je viens pas d'un géniteur 1, d'un géniteur 2, plutôt au féminin. Voilà. Il faut pas confondre. Alors évidemment, les arguments de ceux qui sont en faveur de la PMA, etc. PMA élargie aux couples de femmes, PMA pour les personnes qui vivent seules.
Et demain pour les couples hétérosexuels qui n'ont pas de problème de fertilité.
Ceux qui préparent aussi la GPA, etc. C'est la question d'attachement. On dit l'enfant, il s'attache. Il s'attache à une maman 1 et à une maman 2. Il s'attache. Quand on dépend absolument pour vivre de quelqu'un, c'est nécessaire, on s'y attache. Mais comme cela vient d'être dit, plus tard. Les identités profondes, la structuration psychique profonde, ce qui nous permet de construire intégralement notre identité, on a besoin d'un père et on a besoin d'une mère. au moins dans les représentations.
Et la levée de l'anonymat suffit pas, donc.
La levée de l'anonymat.
L'enfant
non, parce
pourra
que...
un jour avoir accès aux données identifiantes ou non identifiantes, donc du donateur.
Le passé est très
c'est
passé. Si simplement je vis avec le passé d'un père que je n'ai jamais vu et qui n'a pas été un père pour moi, c'est-à-dire que la symbolique du père, c'est de donner la direction, c'est de bénir, c'est de dire une parole qui encourage, c'est d'ouvrir à la société. Alors vous allez me dire, la mère peut jouer ce rôle social. Non, un père, c'est mon père. Je viens de quelque part. Et donc j'ai lu dernièrement l'interview du professeur Friedman sur sa réaction par rapport à la loi de bioéthique. Il est très clair, il dit...
L'autre père du bébé éprouvette, mais voilà. Très loin des positions de Jacques Testard. C'est...
Tout à fait, maintenant, les deux s'opposent. Et en gros, quelle est la valeur fondamentale qui veut maintenant structurer notre société? C'est la liberté absolue de choix. C'est l'autoréférencement. Et la thèse catholique, du point de vue de morale fondamentale, est très simple. On ne peut pas séparer l'affirmation de la liberté d'un vrai bien. Et ce vrai bien, c'est le vrai bien intégral des personnes, et c'est le vrai bien commun. Donc il faut toujours relier cette liberté dans cette perspective d'un vrai bien qui implique de respecter des valeurs et des vertus pérennes.
Daniel Cabanis, vous devez reprendre la parole, il nous reste 2-3 minutes.
Je voulais juste dire une chose, c'est que quelles que soient les positions que l'on prenne par rapport à la PMA, la GPA, c'est encore plus compliqué. Mais par rapport à la PMA, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, ailleurs, je ne me prononce pas parce que je ne sais pas, mais dans nos sociétés occidentales, on a quand même un nombre non négligeable de femmes qui veulent avoir un enfant et qui se le font faire de la manière la plus naturelle et classique qui soit, sans passer par les médecins.
Et la plus gratuite.
Et la plus gratuite qui soit. Mais en disant très clairement qu'elles ont cherché un géniteur et qu'il n'y aura pas de contact avec le père de l'enfant qu'elles auront ou auraient. D'accord. Si cet enfant arrive. Donc,
alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait?
Ce que je veux dire par là, c'est que le problème des enfants à père non identifiable ou non identifié, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, il existe déjà à partir du moment où la structure familiale classique, avec ses bons et ses mauvais côtés, il ne faut pas l'idéaliser non plus complètement, n'est plus la référence. Bon, on a déjà fait une marche qui va très loin dans le sens de ce qui se prépare maintenant. Donc c'est pas un choc, c'est pas un coup de tonnerre complet à mon avis. Ce qui veut pas dire pour autant que ce soit bien. Mais
c'est pas un coup de tonnerre, mais c'est une forme de légalisation. Mmh. C'est une chose d'aller à l'étranger ou de s'arranger.
Non, mais je parle comme pas de... Oui, bien
c'est
sûr.
C'en est une autre de légaliser.
Donc je suis d'accord, c'est le fait d'avoir un enfant sans père. Avec raison, la crise de la filiation, la PMA, ça n'est qu'un des une des manifestations de la crise de la filiation dans notre monde. Ça, c'est vrai, ça c'est clair. Hein, ça, c'est clair.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu?
Ce que je veux dire, c'est simplement
parce qu'aujourd'hui, on dit qu'aujourd'hui, on décorrèle justement la filiation du biologique. Voilà,
c'est un des résultats. C'est-à-dire qu'on voit bien comment la structure familiale étant entrée en crise, les désirs individuels ayant pris le dessus, hein, les liens eux-mêmes, les liens jusqu'aux liens naturels, deviennent eux-mêmes flous, deviennent eux-mêmes compliqués. Et là où des sociétés se construisent en solidifiant, si je puis dire, des socles de parentalité et de filiation, c'est-à-dire la transmission des générations, qui décide de la transmission des patrimoines, qui décide du fait qu'une société arrive à construire des choses dans la durée. Hein, c'est ça ce qui est en jeu. Le fait que ça soit remis en cause, qu'en fait on voit ces idées de filiation se décorréler complètement de l'insertion dans une société, dans une famille, dans une structure, etc., fait que, effectivement, ça devient la filiation au désir, mais à tous les niveaux.
Tanguy-Marie Pouliquen, le mot de la fin, rapidement, si
aujourd'hui,
c'est possible.
On est aveuglé par la notion d'égalité. Voilà, d'égalité. On veut une égalité absolue. Alors que l'égalité, elle est nécessairement différenciée. Cette égalité, elle s'inscrit en fonction d'une histoire, en fonction d'une nature, en fonction d'un sexe. Aujourd'hui, au nom de la liberté absolue de chaque personne, au nom d'un individualisme marchand et libéral, on veut que tout le monde soit libre de choisir. Et parce qu'il est libre de choisir, on pense qu'on va promouvoir une égalité. En fait, on va promouvoir un cumul d'injustices sur le long terme qui va dissoudre le lien social dans sa profondeur.
Voilà, merci en tout cas de ne pas être tombé justement dans le pro ou anti-manif. On peut lire à travers vos propos ce que vous en pensez, quoique pas forcément. En tout cas, on s'était dit qu'on ne tomberait pas dans ce débat qui divise beaucoup. Merci beaucoup de votre présence ce matin. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.